À tout à
la
l'heure.
Physique compte beaucoup parce que le physique, c'est le passeport de quelqu'un.
L'histoire a un corps, troisième épisode, le corps bronzé exposé.
Dis donc, Jacques, cet été, l'épidémie de bronzite a atteint, je crois, son point culminant.
La bronzite, c'est devenu une passion.
Des foules de gens ne vont pas à la mer pour se baigner.
Ou se reposer.
Non, 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 ils y vont pour la bronzite. Aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu d'imagination, hein. Nous allons penser que nous allons nous promener au bord de la mer et nous allons dire ce que nous voyons.
Alors, allez en route.
On peut regarder maintenant, car il y a le choix.
Curieux, cet albinos bronzé au troisième degré, ses cheveux et ses sourcils tranchent sur le brun foncé de sa peau.
Une jeune maman, ravissante physiquement et certainement moralement, puisque sa joie déborde gentiment à faire jouer son amour de petit qui peut avoir 2 ans au plus. Qu'il est bronzé, ce bébé, comme un adulte. Oh, que c'est mignon, ça. Une famille d'ouvriers a même amené le petit dernier dans sa voiture. Et le petit chou prend part à la fête en levant ses petites jambes et en offrant son petit derrière potelé au soleil. Oh, un couple d'amoureux qui se fichent et du soleil et du monde qui les regarde. À moitié nus, tous les deux. Ils manquent complètement de pudeur. Soleil ou pas, ils brûlent bien. Prends-moi, soleil, prends-moi, je m'abandonne, je me donne à toi. Et je sens que je suis en train de bronzer. Ah, soleil !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Pascal Horry, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui prend le relais de Georges Vigarello. Vous avez collaboré ensemble à une histoire collective, l'histoire du corps, et puis aussi l'histoire de la virilité. Et vous-même, tout seul comme un grand, vous avez fait un livre réédité dans la collection Champ l'an passé sur le bronzage. Alors vous avez reconnu la voix.
Oui, c'est un peu surprenant, mais c'est quand même la voix de Maurice Chevalier. Oui, mais... pas dans une de ses plus grandes œuvres, mais...
Non, mais un peu sur le tard. Étonné de voir, après la Deuxième Guerre mondiale, le succès de la bronzite. Parce que, lui, il est né à une époque où le mot « bronzé » n'avait pas le même sens. Dans « La Dame de chez Maxime » de Feydeau, « Au moins, tu sais, je suis bronzé ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je suis inaltérable. Comme une statue de bronze. Mais le verbe bronzer, quand on lit ou relit maintenant littré, ça existe effectivement comme un vocabulaire du monde de la sculpture, mais de la triche aussi. Hein. Ça permet peut-être de revenir sur la question ensuite, à propos du corps suant, du corps irrigué, du corps humain. C'est que là, il s'agissait de recouvrir d'une couche imitant le bronze, une statue par exemple en plâtre. C'est comme ça qu'on bronzait, et c'était ça le bronzage. Et évidemment, la métaphore de la statue, ça c'est tout à fait intéressant, elle n'apparaît que au lendemain de la Première Guerre mondiale. Hein. Maurice Chevalier, c'est un homme d'avant 14. J'ai repéré personnellement, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, plus ancien, en 1919, une première occurrence sous la plume d'un docteur. Ensuite, Henri de Monterland va s'y mettre au moment des Jeux Olympiques dont on parlera tellement, de 1924. Et la métaphore est très intéressante parce qu'elle est propre aux pays latins. Il n'y a qu'en français, c'est les Français qui lancent la formule, en espagnol, en portugais ou en italien, qu'on parle du bronze. Évidemment, les Anglais pragmatiques parlent de tanning, donc on a une peau tannée. Les Allemands parlent du brunissement. Donc c'est du côté des catholiques latins que on choisit, Georges Vigarello serait très bien placé pour en parler, la métaphore la plus valorisante, la plus esthétique.
Alors Maurice Chevalier raconte qu'il s'expose au soleil, qu'il se donne en offrande, qu'il s'obstine, il n'a pas entendu peut-être tous les conseils des médecins, et qu'il manque d'en mourir à Atlantic City, je parle comme Maurice Chevalier avec le même accent, quasi évanoui. C'est un homme d'avant 1918, c'est-à-dire que c'est un homme de l'ancien régime, du temps du pâle. L'ancien régime du pâle.
Tout à fait. Et si j'ai bien compris, ce son est de 1948. Ouais. Là, on est à l'apogée du succès, c'est même le triomphe du bronzage après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout bascule entre les deux guerres mondiales.
Oui, mais alors le pâle, ça dure jusqu'où ?
Alors d'abord, ça dure jusqu'à aujourd'hui dans les pays d'Extrême-Orient. Les élégantes chinoises, japonaises, je me retrouvais il y a quelque temps là dans un de ces pays-là, continuent à se protéger comme les élégantes françaises de 1914, hein, avec des voilettes, avec des masques, comme on le sait, etc. Bon, d'une part. D'autre part, le pâle continue à être une règle très relative, mais quand même dans les pays africain ou antillais, où clairement, même aujourd'hui, même là, cet après-midi, on sait bien que la hiérarchie sociale se voit aussi par une plus grande pâleur. Donc là, on est vraiment dans l'ancien régime pigmentaire qui met à distance qui, ben, dans le cas des pays de race dite blanche, le plouc. Hein, le paysan, lui, il attrape des coups de soleil. Et évidemment, les élites s'épargnent ça. Et surtout, attendez, Jean, la femme des élites. Parce que l'homme des élites, il monte à cheval, il se bat, il en attrape quand même des coups de soleil. Mais sa femme est en stock. Et là, elle est protégée par des voilettes, des capelines, etc.
Elle est sous l'ombrelle. Alors, on n'a pas mis Mistinguette, hein, la compagne bien connue de Maurice Chevalier, mais une chanteuse qui est restée longtemps, plus ou moins volontairement, dans l'ombre, et qui s'appelle Nita Jo.
Quand vient l'été, tout est charmant, on n'a qu'un souci, la toilette. On l'agrémente à chaque instant de mille riens qui la complètent. Parmi ces gracieux objets, le plus important c'est l'ombrelle, que toute femme jeune et belle manœuvre d'un geste coquet. Sous l'ombrelle, comment c'est fini le roman, sous l'ombrelle. L'amour passé ne dure qu'un moment, notre cœur se referme en même temps que l'ombrelle.
Une chanson des années 30, le grand moment, s'il y en a eu pour elle, de Nita Jo. Les années 30 que vous décrivez dans votre histoire du bronzage, édition Chant, Flammarion, Pascal Horry, comme un moment de grand débat et d'hésitation. Alors je vous propose d'écouter ce débat tel qu'il est vécu par le bon Hercule Poirot. Alors Hercule Poirot est en Angleterre depuis la Première Guerre mondiale. C'est pas un homme à s'exposer beaucoup au soleil.
Non, je crois pas.
Hein. Puis Agatha Christie non plus.
Non plus.
Et Miss Marple...
Encore moins.
Encore moins. Il faut vraiment un cas de force majeure. Là, il a été pris d'un malaise à Hastings et on lui fait des recommandations.
Hercule Poirot n'est pas obèse.
Pas au sens où vous l'entendez, mais médicalement parlant, vous l'êtes.
Cela peut engendrer des problèmes cardiaques, ce qui a dû causer, enfin, vous savez.
Et c'est de la part du docteur, je l'ai appelé ce matin, il vient juste de faire déposer ça. L'hôtel Sandy Cove, en plein sur la côte sud. Il y a 2 ans, c'est devenu un centre de remise en forme que tous les docteurs recommandent.
Régime draconien par la diète et l'exercice, la mer et le soleil.
Ce sont les ordres du docteur, vous avez une chambre pour 2 semaines.
Ne vous en faites pas, je suis persuadé que vous adorerez.
Dites-moi, vous n'êtes pas là pour affaire, monsieur Poirot ?
Non, je viens sur recommandation de mon docteur.
Il faut savoir prendre du repos de temps en temps.
Rien de tel que l'air de la mer et le soleil.
Je prends facilement des coups de soleil, je ne peux pas m'exposer.
Ah bah voilà une jeune femme qui l'entend certainement d'une oreille favorable. J'ai pas envie de m'exposer, lui, dit-elle. Et on peut imaginer le débat intérieur de Poirot. Heureusement, un meurtre sur la plage va mobiliser toutes ses sources dans un instant. Oui. Ce sont les vacances de Hercule Poirot, un film bien connu.
Oui, bah, ne pas s'exposer en dehors du cas particulier des roues et des rousses, c'est quand même être fidèle à plusieurs siècles, presque des millénaires de tradition, renforcé parce que il y a un petit texte que je cite de Sénèque qui laisse entendre qu'à l'époque des débuts de l'Empire, il y avait des dandys qui se faisaient bronzer et Sénèque, en bon stoïcien, est tout à fait contre. Mais après, avec le christianisme, alors ça se referme. La virginité de la Vierge s'exprime par le lys. Les jolies femmes ont un cou de cygne, ce qui veut dire à la fois un cou très blanc et très long, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on entre dans le 19e siècle romantique, on a beau assister progressivement à une sorte de sécularisation, ça reste. Ça reste. Il n'y a pas de beauté plus marmoréenne que les beautés de l'époque du romantisme.
Oui, mais les médecins font des recommandations à Poirot. C'est le médecin qui lui dit d'aller au soleil.
Ce sont certains médecins. Parce que je crois que les acteurs principaux, c'est pas Coco Chanel, c'est pas les congés payés, c'est-à-dire la version populiste ou la version élitiste. Non, ce sont les médecins. Et ça explique pourquoi on aurait pu déjà basculer dans le bronzage. C'est très impressionnant la rapidité avec laquelle on bascule. En moins de 10 ans, ça passe de l'avant-garde aux classes populaires. Ça, c'est vrai. Dans un pays comme la France et dans beaucoup de pays d'Europe occidentale. Mais pourquoi est-ce que c'est seulement dans l'entre-deux-guerres? Ça aurait pu commencer avec les bains de mer, etc. C'est que le corps médical, dans une petite tendance qu'on appelle déjà la médecine naturelle, c'est pour ça qu'il y a le mot bain de soleil, qui a commencé par réhabiliter l'eau en disant on peut faire de l'hydrothérapie. Et maintenant, passons à l'étape suivante, de l'aérothérapie, s'exposer à l'air. Et puis l'étape suivante, exposons-nous au soleil. L'héliothérapie, on peut par exemple lutter contre la grande maladie du siècle, qui à l'époque n'est pas le cancer, bien sûr pas le sida, c'est la tuberculose. D'où les sanatoriums. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça se passe assez largement dans l'atmosphère germanique, d'ailleurs Thomas Mann, hein, la montagne magique. Et donc les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, en même temps d'ailleurs que les auberges de la jeunesse ou le randonnisme, ça crée une disposition qui est prise en relais par des médecins allemands, autrichiens, flamands, comme par hasard, mais aussi suisses romands, qui vont dire, mais écoutez, pour guérir de la tuberculose et de bien d'autres maladies, il faut s'exposer au soleil, il faut donc se dénuder aussi.
Mais il y a des médecins qui sont plus hésitants. Le docteur Alexis Carrel, très connu en France à l'époque, dit qu'il faut attendre un peu pour voir le résultat sur la race blanche.
Ah oui, il accompagne ça même de considérations, et c'est pareil, sur Joséphine Baker, c'est-à-dire toutes ces élégantes françaises qui veulent ressembler à Joséphine Baker, donc suivez mon regard, hein, c'est quand même un regard raciste. Mais Carrel, lui, représente lui aussi quand même la génération d'avant. Il a eu son prix Nobel, sauf erreur, juste avant la guerre de 14. Donc, les nouveaux médecins, mais c'est une minorité, c'est une avant-garde, qui sont, par exemple, partisans du nudisme, ce sont des médecins qui recommandent le nudisme, évidemment, représentent la plus jeune génération.
Mais vous insistez sur le débat qui a lieu dans les différents titres de la presse féminine dans ces années 1930. Alors, souvent, la presse féminine fait des comparaisons. La race blanche, les métis, les mulâtres, les nègres. Si vous voulez avoir la même peau qu'un nègre, si vous voulez avoir la même peau qu'un mulâtre. Comment ça s'organise, le débat dans les années 30, entre les titres de presse?
On peut caricaturer avec deux titres qui ne sont pas aussi extrêmes que ça, mais enfin c'est à peu près ça, qui représentent pour l'un le magazine féminin populaire, le Petit Écho de la Mode, qui est le plus grand tirage des magazines familiaux, hein, pas simplement féminins.
C'est-à-dire bien au-delà du million.
Ah oui, oui, dans l'entre-deux-guerres. Et puis en face, vous avez Vogue, pour une élite. L'édition française de Vogue, c'est un effet de la guerre de 14, c'est-à-dire que les Américains ont lancé Vogue, et après avoir gagné aux côtés des Français, ils se sont dit on va s'implanter dans la capitale mondiale de l'élégance, Paris, d'où l'édition française. Et l'édition française de Vogue a 20 ans d'avance, enfin disons 15 ans d'avance, sur le Petit Écho de la Mode. Le Petit Écho de la Mode, dans les années 30, est très frileux, ce qu'il y a de dire là-dessus. C'est le journal, le magazine des mamans. Les filles actives, qu'elles soient dactylo ou héritières d'une grande fortune, mais qui fument, qui éventuellement passent leur permis de conduire, là, elles adhèrent à la nouvelle conception que défend Vogue. C'est dans Vogue, dans les années 20, qu'on voit les premiers débats sur le soleil. Il n'y a pas une ligne là-dessus dans le Petit Écho de la Mode jusqu'aux années 30.
Mais le Petit Écho de la Mode est imprimé en Bretagne, la propriété d'une famille aristocratique de Bretagne. Mais vous ne citez pas un titre très important quand même, Marie-Claire.
Mais j'allais le citer parce que Marie-Claire n'apparaît qu'en 37. Et ça, c'est passionnant parce que vraiment, il arrive après, en effet, les congés payés, qui ne déclenchent rien mais qui amplifient le mouvement. D'ailleurs, on en parlera peut-être, si on accepte de faire de la publicité, parce que c'est de l'histoire, Ambre solaire est lancée par L'Oréal, donc par Schueller, un chimiste qui passe ses vacances d'ailleurs en Bretagne.
La Sorbonne plage, en face de Sorbonne plage.
À l'Arquest, à côté. Et donc, c'est lancé en 35, donc c'est un homme qui a eu le sens du commerce. Il lance Ambre solaire grâce à la radio. Grâce à Blostein Blanchet, Radio Cité, etc., en 35 et en 36, c'est évidemment une envolée. À partir de ce moment-là, Marie-Claire correspond exactement au nouvel esprit, et c'est très intéressant. J'étais tombé sur le premier article de rentrée, l'automne 37 de Marie-Claire, disant « Chère petite Marie-Claire, vous rentrez à l'aise, parce que c'est bien ». Mais maintenant, vous vous regardez, vous êtes dans l'ambiance de la ville et vous avez une sorte de gêne. On sent que c'est la gêne de la journaliste ou du journaliste, parce que c'est souvent des hommes qui écrivent sous des noms de femmes à l'époque, ou dans Marie-Claire ou ailleurs. Et alors, faites-vous peut-être un peeling. Mais on sent bien qu'il y a un partage. Et puis 2 ans après, par exemple, Marie-Claire, c'est le soleil tout le temps. Il faut pas oublier qu'il y a une légende sur le bikini, hein. Le maillot de pièces triomphe en 1939 pour l'été 39.
C'est évidemment le nom bikini qui apparaît après la Deuxième Guerre.
L'été 39, évidemment, la plupart des élégantes avaient l'esprit.
Il y a une caricature bien connue d'Alain Saint-Augan. « Chérie, où est mon carnet de mobilisation ?» entre l'ambre solaire et le maillot de bain. Mais moi, je veux bien qu'on fasse de la publicité, mais il faut rendre, vous avez cité Scheller et L'Oréal, il faut rendre à Jean Patou ce qu'il mérite de recevoir comme hommage. Jean Patou, nous sommes bien avant la date.
Nous sommes en 1927.
De création d'Ambre solaire.
Huile de Caldé.
Éprise de vitesse et de sport, la femme rivalise avec l'homme. À cette nouvelle femme qui offre sa peau aux délices du soleil, Jean Patou dédie Caldé, une huile solaire à la fragrance riche et séduisante, faite d'ambre et de fleurs.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Que c'est grisant, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement. Quand le printemps fait éclater tous les bourgeons, j'ai des visions de vagues et de fruits tropicaux. Les bras nu au soleil, complètement nu au soleil, complètement nu au soleil.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le corps a une histoire. Troisième épisode en compagnie de Pascal Horry qui a publié entre autres une histoire du bronzage. Champ Flammarion, collection de Poche. Le corps exposé, le corps bronzé. C'est de l'histoire culturelle que l'histoire du corps, on le dit depuis lundi. On peut aussi en avoir une interprétation économique, c'est-à-dire insister sur le rôle de l'industrie fabricante.
Quand j'ai abordé la question il y a longtemps, dans les années 80, je constatais qu'il y avait une vraie révolution. Moi, j'hésite pas à dire, c'est pas du tout démagogique, ça ne doit pas susciter de sourire, que c'est une révolution culturelle. Pensez à ce que seront la génération d'après, le piercing ou le tatouage. Ce sont de vraies révolutions culturelles. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et une des hypothèses que je lisais, c'était, oui, on a bien compris, derrière, il y a l'industrie du cosmétique qui est à la manœuvre. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que Schueller va accompagner le mouvement, mais c'est pas du tout lui qui le lance. On en parlera peut-être aussi. Les instituts de beauté sont complètement à la masse. Hélène Rubinstein ou Elisabeth Ardet, elles n'ont pas compris ce qui se passait. Non, il y a une avant-garde qui effectivement lit Vogue et qui fait confiance à Patou, autant qu'à Coco Chanel. J'ai découvert Patou à cette occasion-là, en écrivant ce livre. Patou, c'est un peu le Coco Chanel, je parle sous le contrôle d'un spécialiste, masculin. C'est-à-dire que c'est un homme du sportswear, de la décontraction, dont l'égérie, comme on disait pas à l'époque, c'est Suzanne Lenglen. Quand
la
on voit les photos
Roman,
de Suzanne Lenglen, c'est extraordinaire, c'est de la chorégraphie.
Et puis ce qui est bien avec Patou, à la différence de Chanel, c'est qu'il y a plein d'archives. Que tout est parfaitement conservé, qu'on peut dater beaucoup plus précisément.
Exactement.
Dont ce qui concerne
Caldé,
Chanel.
1927, c'est quand même un homme qui a le sens aussi du commerce, comme d'ailleurs Coco, mais enfin, voilà. Et qui a bien compris qu'il y avait un mouvement, parce que lui, il y vogue, etc. De même qu'il va, coup de génie, qu'il faudrait apprendre dans toutes les écoles de commerce, c'est peut-être fait d'ailleurs, il va lancer en 1930, au début de la crise de 29, le parfum qui s'appelle, d'après sa publicité, le parfum le plus cher du monde, Joy, qui existe toujours d'ailleurs. Donc, et ça a un succès fou. Donc cet homme s'est quand même accompagné. Il a lancé un parfum qui s'appelait Normandie, testé sur le Normandie. Et donc, il est là, il est présent avec l'huile de Caldé. Et puis le nom Caldé, bon, pour ceux qui ont encore à l'époque une culture religieuse quand même, on n'est pas loin de Our, Caldé, Abraham, tout ce qu'on veut. Et beaucoup de noms vont évoquer comme ça, soit l'Inde, soit l'Afrique, mais plus rarement l'Afrique, généralement le Moyen-Orient, parce qu'on sait que c'est vendeur.
Mais vous insistez aussi à l'origine de la lame de fond sur la médecine. J'allais vous poser une question complètement vicieuse, hein, Pascal Horry. C'est aussi l'époque où la radiologie déshabille le corps.
Ah mais vous avez raison d'établir des liens. Oui, il y a un rapport à l'observation du corps qui est en train de basculer très très sérieusement. Mais là, comme on est quand même du côté du pigment, c'est vrai que ça reste à un autre niveau. Et là, ça touche
mais
y a
rien
à quelque
de plus
chose.
Profond que la peau.
Je commence le livre par cette citation géniale de Paul Valéry. Ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau, et c'est une citation de l'époque d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on va s'intéresser à cette histoire cette histoire de la pigmentation, on va forcément, du coup, s'intéresser à une dimension qui est presque la fin du livre, l'émancipation féminine. Parce qu'on parle souvent, avec parfois d'ailleurs pas mal de légendes, de la coupe de cheveux, qui est effectivement une vraie révolution, et qui se situe entre les années 10 et les années 20. C'est pas entièrement lié à la guerre de 14, quand on entend ce qu'on dit, mais voilà, c'est à ce moment-là. La libération de la gaine, par, non pas Patou, mais par Poiret, et effectivement le raccourcissement des jupes des femmes. Bon, il y a une part de mythe, une part de réalité. Clairement, le bronzage en fait partie.
Il n'y a qu'une partie du corps qu'on dévoile moins. Il y a une exposition au musée Bordel à Paris, en cette époque où le musée de la mode de Galliera est fermé, sur le thème du dos. Et alors là, on s'aperçoit que dans Vogue, à l'époque que vous citez, il y avait 10 fois plus de citations du dos nu, sous forme de photographie ou d'évocation, qu'aujourd'hui.
Oui, mais alors il faut distinguer. En ce qui concerne l'histoire de la vêture, le dos nu, c'est certaines époques, dont les années 20. Bon, par ailleurs, s'exposer au soleil le dos nu, ça demande un peu plus de courage, de radicalité, donc ça prendra un petit peu de temps. Mais c'est quand même très rapide d'imaginer qu'on arrive au maillot de pièces en 37, 38, 39. C'est tout à fait impressionnant quand même.
Je voudrais vous faire raconter des expériences qui étaient vécues collectivement. De déshabillage, de dévoilement progressif, en toute innocence, dans la nature. Alors vous évoquiez le monde germanique, il y en a eu beaucoup. Il y a dans les îles du Levant, Héliopolis. Mmh. Et puis, tout près de Paris, dans une île de la Seine, à Vilaine, c'est sous l'égide de deux docteurs, André et Gaston Durville.
Mais ce sont les mêmes qui seront à l'origine d'Héliopolis.
Que se retrouvent les habitués de Physiopolis. Donc voici quelques héritiers, déjà âgés, interrogés par Frédéric André et Philippe Bigot en 1996.
J'ai connu mon mari ici, qui était un sportif. On n'arrêtait pas de la journée. Tous les sports, on les pratiquait. Ici, on était tous en slip, et on était là pour faire du sport, pour vivre une vie naturiste, donc le reste, il pouvait aussi bien y avoir des employés, des ouvriers, que des cadres, tout ça. Une fois que vous êtes déshabillé, ça se voit plus, tout ça.
En fin de saison, c'est-à-dire à cette époque-là maintenant, c'était souvent le premier dimanche de septembre, il y avait grande compétition sportive qui durait toute la journée. Nous, dites-vous bien qu'il y avait des, sur les allées, il y avait des visiteurs qui venaient le dimanche. Ils venaient le dimanche parce que nous appelions naturistes et ils pensaient qu'ils allaient, comme on dit, se rincer l'œil.
On est venu camper, ma fille avait 11 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est venu camper, il n'y avait pas de butane, il n'y avait pas de tout ça, c'était pas de la tarte. On était tous logés à la même enseigne, on était sous la tente et puis ça suffisait quoi. Et quand on avait trop froid la nuit, les jeunes remuant sportives, on se levait, on allait faire des tours de piste pour se réchauffer. Alors vous voyez le problème. Au point de vue naturiste, tout ça, c'était quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, maintenant on parle beaucoup des écologistes, mais dans ce temps-là, le naturisme, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et en réalité, c'était simple comme bonjour, c'était de ne pas faire des excès, c'était de cultiver son corps, enfin, ça n'avait aucun rapport avec ce qui se passait dans la vie, mais c'était comme ça.
On s'arrête un peu au mot, Pascal Horry, comme on l'a fait avec le mot bronzage tout à l'heure. Naturisme, faut pas chercher midi à 14h, dit cette dame. Mais, c'est simple comme bonjour.
Oui, mais parce que c'est du nudisme au sens strict du terme. Le naturisme, à l'époque, c'est un mot qui est très utilisé, entre autres par les frères Durville. Ça consiste à dire vivons de façon, on dirait aujourd'hui, bio. Hein. Ça, c'est le naturisme. Et effectivement, on a rabattu naturisme sur la dimension nudiste, mais le nudisme, c'est un peu l'avant-garde, alors l'extrême avant-garde d'un mouvement naturiste, très représenté dans les mondes scandinaves et germaniques déjà à cette époque-là, avec d'ailleurs une ambiguïté idéologique, c'est-à-dire que grosso modo, toutes les familles politiques peuvent récupérer le nudisme. À chaque fois, ce sont des minorités, mais très agissantes. Vous avez une version anarchiste, Monteverita, pendant la guerre de 14, là, hein, pour le coup, c'est le côté libertaire en Suisse, dans le Tessin, etc. On est théoriquement nu, la plupart du temps. Mais vous avez des nudistes nazis aussi, hein, dans les années 30. Mais le nudisme, effectivement, c'est une grande provocation. On imagine les commentaires. Et c'est intéressant de voir qu'en France, ce sont des médecins qui cherchent à justifier ça. Et là, ça provoque des réactions parce qu'il y a des partisans de l'exposition au soleil qui sont anti-nudistes. Donc c'est très intéressant de voir les contradictions, on imagine lesquelles.
Et qu'est-ce que c'est leur motivation? Les adversaires du nudisme sont pour la bronzite.
C'est quand même le début de la débauche quand même. Donc c'est évidemment la sexualité. En général, quand vous avez une question, Jean Lebrun, cherchez la dimension sexuelle, puis voilà. Oui. C'est tout.
Alors justement, je voulais vous poser une dernière question vicieuse, Pascal Horry. On fait comme si nous étions tous contemporains les uns des autres. Mais l'histoire de la transformation de l'image, de la pratique du corps, montre que nous ne sommes pas contemporains les uns des autres. Je veux dire, certains vont dire c'est la libération. Et puis d'autres vont aller en courant très vite, en regardant la mer fixement sur la plage pour ne pas être l'objet du regard des autres. Ou bien ils vont se dissimuler à plat ventre pour cacher leur difformité. Et donc ils ne sont pas contemporains du groupe des belles à côté ou du groupe des beaux jeunes gens à côté qui jouent aisément.
Mais ce n'est pas particulier à ce sujet, mais bien entendu qu'il y a superposition et parallélisme. Le dernier discours que vous venez de tenir, c'est celui de la semaine religieuse des Côtes du Nord, où l'évêque condamne les bains de soleil. Et aujourd'hui encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on va condamner les bains de soleil aujourd'hui pour des raisons médicales, mais qui souvent recouvrent le puritanisme. Parce que les raisons médicales, on les connaissait à l'époque. Or, c'est le grand principe, les sociétés ont toujours raison. Il y a de pires sourds que ceux qui veulent pas entendre. Dans les années 20, 30, 40, 50, 60, on idolâtre le soleil. On sait déjà qu'il y a des cancers de la peau. Aujourd'hui, pour diverses raisons, il y a eu un retour en arrière, mais ça veut dire que ça se passe dans les têtes. Ça n'a rien d'objectif, c'est entièrement subjectif.
Le fait que nous ne soyons pas contemporains les uns des autres s'observe aussi quand on voit le regard des musulmans sur la nudité. La sexualité est vue de manière positive. Dans l'islam, il y a même une littérature érotique, mais dans des cadres très précis.
Bon, il y avait une littérature érotique dans le monde chrétien, et pendant ce temps-là, l'Église catholique, en général, était assez crispée sur la chose. Donc je crois que c'est une situation qu'on a déjà connue dans le monde chrétien, hein, celle que vous êtes en train de décrire. Et pour le reste, en effet, l'affaire du burkini, etc., montre bien que le problème du dévoilement, mais c'est autre chose quand même, il y a un lien bien sûr avec le dévoilement, mais le dévoilement du corps féminin, bien entendu, dévoilement du corps masculin, bon, ça reste quelque chose de violent, pour une bonne partie de l'humanité.
Oui, mais alors, on ne va pas pouvoir trouver une justification religieuse à la différence de comportement entre des femmes blanches qui veulent devenir noires à force d'être bronzées et des femmes noires qui vont acheter à Château-Rouge, à côté de la gare de l'Est, des crèmes de dépigmentation.
Mais comme dirait l'autre, c'est une affaire de distinction. Donc, par rapport à quoi est-ce que je me distingue? Si on est dans une société rurale, je me distingue par rapport aux paysans. Et je fais partie de la bonne société qui ne se bronze pas, surtout, je répète, les femmes. Et puis, au XXe siècle, je me distingue par rapport à l'ouvrier ou à l'employé qui est caché d'aspirine. Et maintenant, les paramètres ont encore changé.
Alors demain, nous parlons de l'aboutissement de cette révolution culturelle. C'est vous qui employez ce mot, vous en prenez la responsabilité.
C'est une vraie révolution, elle est beaucoup plus importante que bien d'autres révolutions.
Pascal Horry, nous avons parlé du corps extraordinaire du XXIe siècle, qui est au fond, au regard des générations précédentes, un corps extraordinaire. Je rappelle votre participation à l'histoire du corps, à l'histoire de la virilité. C'est au Seuil, votre livre « Chant Flammarion sur le bronzage ». Anne-Laure Cochet, Audrey Ripouille, Franck Oliver, Frédéric Martin, Ininka Negulesco, l'équipe de la Marche de l'Histoire.